Ici, contre. Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir.
Héroïque, femme en résistance, d'après le livre de Antoine Porcu, publié dans les éditions Gai Bleu. Marie-Claude Vaillant-Couturier. À la fin de cette biographie, vous pourrez écouter un extrait de son témoignage au procès du Nuremberg et la chanson « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat, chantée par Patrick Fiori et Muvrini. Marie-Claude, comme l'appelaient affectueusement les communistes, vint au monde le 3 novembre 1912 à Paris. Fille aînée de Lucien Vogel et de Cosette de Brunhoff, famille protestante dreyfusarde, aux idées socialistes bien ancrées. Lucien Vogel, au congrès de Tours en 1920, se range aux côtés des partisans de la Troisième Internationale. Sa mère est rédactrice en chef du Jardin des Modes. Marie-Claude Vogel obtint son baccalauréat au Collège Sévigné à Paris. Elle veut se consacrer à la peinture, idée que n'approuvent pas ses parents, considérant que cela n'est pas un métier. Il décide de l'envoyer à Berlin en 1930 afin de bien apprendre la langue allemande. De retour en France, elle choisit de devenir photographe de presse. Ses premiers clichés seront publiés dans la revue Vue que dirige son père. Au cours d'un dîner chez son père en 1932, elle rencontre Paul Vaillant-Couturier. Très vite, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Après 3 années de vie commune, ils se marient le 29 septembre 1937 à la mairie de Villejuif. En 1934, alors que les ligues factieuses s'agitent en France, Marie-Claude adhère à l'Union des jeunes communistes. Le bonheur conjugal de Paul, de Marie-Claude est de courte durée. Paul, devenu entre-temps rédacteur en chef de l'Humanité, décède le 10 octobre 1937. Marie-Claude entre au journal L'Humanité en tant que reporter-photographe. Aux côtés de Daniel Casanova, elle est une des dirigeantes de l'Union des jeunes filles de France. Après un séjour de 6 mois en URSS, Marie-Claude se voit confier la responsabilité du service photographe du journal L'Humanité. Jusqu'à son interdiction en 1939. Dès le début de la résistance, elle rencontre Pierre Villon, un des futurs dirigeants du Conseil national de la résistance. Ensemble, ils vécurent les premières années dans la clandestinité. Résistante dans le même groupe que Georges Pulitzer, Jacques Salomon, Daniel Casanova, elle est arrêtée le 9 février 1942, emprisonnée à Santé, puis au fort de Romainville, avant d'être déportée à Auschwitz, le 24 janvier 1943. Avant d'être transférée au camp de Ravensbrück le 12 août 1944. Son attitude courageuse, pleine de sollicitude envers ses compagnes de déportation, est reconnue par toutes ses camarades de souffrance. Après son retour en France, Marie-Claude Vaillant-Couturier fut un des principaux témoins de l'accusation au procès de Nuremberg des dignitaires nazis en 1946. Quelques passages de son témoignage méritent d'être rappelés. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour, on a déplombé les wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance au camp d'Auschwitz, dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Nous sentions tellement qu'il y avait peu de chances de s'en sortir, car nous en avions déjà rencontré des colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail, qu'en passant sous la porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. On nous a conduites dans une grande baraque, puis à la désinfection. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matricule. Ensuite, on nous a mis dans une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée. Les causes de la mortalité étaient nombreuses. Il y avait d'abord le manque d'hygiène. Lorsque nous sommes arrivés à Auschwitz, pour 12 000 détenus, il y avait un seul robinet d'eau potable qui coulait par intermittence. Comme ce robinet était dans les lavabos allemands, on ne pouvait y accéder qu'en passant par une garde de détenus allemandes de droit commun qui nous battait effroyablement. Il était donc presque impossible de se laver ou de laver son linge. Le 5 février 1943, à 3h30, tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d'habitude l'appel se faisait à 3h30, mais à l'intérieur du camp. Nous sommes restés dans cette plaine, devant le camp, jusqu'à 5h du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture. Puis, lorsque le signal était donné, nous devions passer par la porte, une à une, et l'on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenu, en passant, pour la faire courir. Celle qui ne pouvait pas courir parce qu'elle était trop vieille ou trop malade était happée par un crochet et conduite au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Au lendemain de son retour en France, le 26 juillet 1945, Marie-Claude est désignée membre suppléant du comité central du Parti communiste français. Après avoir été cooptée à l'Assemblée consultative, elle est élue députée à l'Assemblée constituante en novembre 1945, dans le 4e secteur de la Seine-Sud. Pendant 3 législatives continues, la confiance des électrices et électeurs ne lui fait pas défaut. Après l'intermède de 1958, Marie-Claude est à nouveau réélue députée dans la circonscription de Villejuif de 1962 et à 1967. Le souvenir des crimes nazis est tenace chez Marie-Claude. Au cours d'une séance à l'Assemblée nationale le 16 décembre 1964, elle plaide pour l'adoption d'un amendement renforçant la proposition de loi sur l'imprescriptibilité du génocide et des crimes contre l'humanité. En 1973, âgée de 60 ans, elle laisse son siège de députée au profit du secrétaire général du PCF de l'époque, Georges Marché, tout en restant membre du comité central jusqu'au 25e congrès en 1985. Marie-Claude Vaillant-Couturier décède le 11 décembre 1996. Le Parti communiste officiellement a demandé qu'elle soit honorée en rentrant au Panthéon, ce que le président François Hollande a refusé.
Other camps were death camps, meant to kill en masse healthy people, millions of men, women and children, by means of a deadly gas, Zyklon B, spread in gas chambers. In their crematorium furnaces, they could burn daily thousands of corpses. A French Auschwitz survivor is here to testify. A communist, she was deported for acts of resistance.
Êtes-vous témoin direct
oui.
De la sélection à l'arrivée des convois?
Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par 2 rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes, des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles, puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort.
Par les... You're going too fast.
Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers.
On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les peaux s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.